Radio Campus Lille, il est 6h.
Emmaüs Connect est une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d'intérêt général, créée en 2013, qui vise à lutter contre l'exclusion numérique des personnes en situation de précarité sociale. Elle intervient dans la région des Hauts-de-France. Emmaüs Connect Roubaix a organisé une journée porte ouverte destinée à toute personne désirant se former au numérique. Rencontre avec Juliette, responsable de l'espace solidarité numérique de Roubaix.
L'association Emmaüs Connect, on intervient sur trois missions. On équipe, on accompagne et on connecte les publics en situation de précarité qui ont besoin d'être accompagnés sur justement le numérique.
Vous faites ça avec des ateliers, c'est ça?
Oui, exactement. Alors la partie accompagnement, on fait des ateliers. On est ouvert toute la semaine sur rendez-vous pour accompagner sur le numérique. C'est les bénévoles qui accompagnent les publics sur leurs questions du numérique, que ce soit liées à l'ordinateur ou au smartphone. On a aussi des ateliers thématiques où là, ça sera une thématique particulière sur le numérique qui ont lieu à intervalles assez réguliers sur les semaines, par exemple découvrir Doctolib, protéger ses données personnelles, tout ce genre de sujets.
Quelle est la typologie du public que vous accueillez?
C'est très très large. Alors pour l'accompagnement, c'est très large, on touche tout public. Ça va être des retraités, ça va être des jeunes, ça va être des personnes en recherche d'emploi, ça va être aussi des personnes un peu coup de pouce où elles vont venir vraiment une fois pour être accompagnées sur un sujet, et des gens qui viennent un peu plus régulièrement pour vraiment apprendre le numérique.
Quels sont les principaux freins que vous avez constatés?
Alors les freins, ça va être des freins financiers, hein, parce que pour toute la partie accès et vente de matériel, les personnes qui viennent chez nous, c'est des personnes qui ont besoin de s'équiper d'un ordinateur ou d'un smartphone, mais aujourd'hui forcément s'équiper, ça revient cher, donc il y a les freins financiers, et il y a aussi les freins, tout ce qui est lié à la thématique du numérique, hein, l'apprentissage du clavier, de la souris, etc. Quand on ne connaît pas et qu'on n'a jamais utilisé un outil informatique, c'est vrai que des fois il y a un peu une forme de peur, et on est là avec les bénévoles et l'équipe salariée pour justement débloquer tout ça et pouvoir avancer et apprendre tous ensemble.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on a ouvert nos portes sur l'espace de Roubaix. C'est ouvert à tout le monde, aux partenaires, aux habitants, aux curieux qui passent et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. On brasse assez large, hein. Le but c'est de présenter aussi le bénévolat qu'on fait chez Emmaüs Connect parce qu'on fonctionne grâce au bénévolat. Mine de rien, c'est quand même une grosse équipe qui est là toutes les semaines pour faire tourner l'espace, mais aussi de faire découvrir au public, notamment aux habitants du quartier, ce qu'on peut proposer et qu'ils n'hésitent pas du coup à venir franchir la porte pour qu'on puisse les accompagner sur les différentes thématiques.
Est-ce que vous êtes présent dans les différentes villes de la région des Hauts-de-France?
Alors, sur la région des Hauts-de-France, on est présent sur Roubaix et sur Lille. On a deux espaces, comme celui ici de Roubaix qui existe actuellement. On est aussi présent sur le Pas-de-Calais et sur d'autres départements, mais il n'y a pas d'espace dédié, c'est une équipe assez mobile. Et puis voilà, sur les Hauts-de-France, c'est comme ça qu'on est présent.
Joël et Touraya, tous deux adhérents à Emmaüs Connect. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous venez à Emmaüs Connect?
Pour apprendre l'informatique, parce que maintenant on est obligé, mais c'est bien. Il faut venir, celui qui a la possibilité de venir, ils peuvent venir. Il y a pas mal de choses à faire.
Est-ce que vous avez participé à des ateliers?
Pour l'instant, 2-3.
Quelles sont les principales difficultés que vous aviez?
Il y a pas mal de choses, hein. Et puis moi j'ai pas internet, donc pour l'instant.
Vous avez un problème d'accéder à l'outil informatique?
Oui. On me dit ça aujourd'hui, demain on peut me le répéter. Mais bon, ça commence à. Il y a des choses qui commencent à rentrer, quoi. C'est vrai que. Mais celui qui a la possibilité de venir, venez parce que c'est quand même intéressant.
Aujourd'hui, pour les démarches administratives, on a besoin de l'informatique.
Oui, c'est essentiel. Mais moi, c'est ma fille qui le fait. Donc,
Qu'est-ce que vous pensez du travail qui est fait par l'association?
Très bien. On connaît les anciens, c'est bien. Bon, les nouveaux, on les connaît moins, mais les anciens, on va dire, au bout de 5-6 ans, on est vaccinés, quoi.
Je suis là parce que j'ai connu Emmaüs Connect et parce qu'il me manque un petit peu des étapes de connaître la technologie de connexion. de formation parce que c'est pas facile pour connaître tout.
Quel problème est-ce que vous avez rencontré ?
Malheureusement, moi je travaille bientôt 30 ans à ID Formation et malheureusement, j'arrive pas bien à utiliser l'ordinateur. Et il faut compter sur soi-même. Alors moi, j'aime bien compter sur moi-même. Et c'est grâce à ici, après j'ai renseigné, je suis venue ici. Depuis que je suis venue ici, c'est franchement, c'est la porte de paradis. Tous mes problèmes, ils sont résolus. Tout. Parce que ici, j'ai appris beaucoup de choses. Vous imaginez, beaucoup de choses. Qu'est-ce que moi j'ai besoin ? C'est la clé de ma vie. Et grâce à ici, que je puisse apprendre beaucoup de choses.
Quelles sont les principales difficultés que vous aviez rencontrées ?
Les difficultés d'avant, je ne sais pas, je sais pas fonctionner les bases. Les bases, je ne connais pas, je ne sais pas. C'est un petit peu difficile, j'arrive pas à mettre les choses bien en place quand je touche l'ordinateur. Et ça veut dire quand on envoie un mail, quand il y a des mots de passe, la tablature, il y a beaucoup de choses dans le bureau, dans la connexion. Mais ici, grâce à ici, j'ai tout appris. Quand je t'ai dit, je suis heureuse, je suis très, 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 très contente. Vous imaginez, c'est un porte parce que je suis contente, parce que j'avance. Vous imaginez des papiers de sécurité sociale, des papiers pour envoyer le mail, des papiers pour scanner. C'est tout maintenant. Et grâce à ici, un bénévole, ils sont très sympas tous, qui m'aident. Et franchement, maintenant, je vois que j'avance et je suis heureuse. Et je remercie énormément l'équipe de bénévoles et surtout Emmaüs Connect. Grâce à ici, que je puisse bien voir ma vie correctement.
Philippe, ancien développeur web et bénévole à Emmaüs Connect.
L'inclusivité numérique, c'est mon truc, quoi. C'est pour ça que je suis là et aider les gens à se connecter, etc. C'est mon dada.
En quoi consistent vos tâches ?
Alors, on a plusieurs tâches. On a les permanences connectées, où on accueille les gens pendant une session d'une heure et demie à les accompagner sur une problématique qu'ils ont, qu'ils rencontrent, etc. Ou alors juste à les accompagner, à se former sur les outils, que ce soit sur les tablettes, les téléphones, les ordinateurs. Donc, on les accompagne à apprendre sur ces outils-là.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez repérées ?
Difficulté des utilisateurs ou... Alors, en général, c'est vrai que les gens arrivent ici avec aucune connaissance. Et c'est vrai que quand on arrive sur un outil où on ne sait pas filtrer l'importance des informations, il y a beaucoup de choses sur les écrans. On ne sait pas si quelque chose est plus important que l'autre, etc. On a peur de faire l'erreur. Et je répète souvent aux bénéficiaires que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et que... on est là pour les accompagner et que si vraiment ils font une erreur qui est gravissime, on est là derrière pour vraiment rectifier le tir. Et donc on laisse faire et on accompagne. Et ça se passe très bien. Les gens apprennent.
Ensuite, il faut lever les appréhensions, surtout.
Oui, les appréhensions, ouais. C'est vrai que les gens ont peur de l'outil numérique, qu'ils ont peur de faire une bêtise et qu'ils vont tout casser, etc. C'est vrai qu'on est là, on crée d'abord un lien social, on les met à l'aise. Et ça permet d'être décontracté face à un outil qui peut faire peur, quoi.
Et après, il faut beaucoup de pédagogie.
Oui, c'est vrai que les bénévoles ici ont tous beaucoup d'empathie, de patience aussi. Quand personnellement, j'accompagne juste ma mère à faire des tâches sur son ordinateur, je suis peut-être un peu moins patient, etc. Mais ici, la démarche n'est pas du tout la même et... Ouais, c'est très safe, enfin, c'est très c'est un endroit vraiment sûr et c'est cool, quoi.
Qu'est-ce que les bénéficiaires vous disent en majorité ?
Alors, ça met du baume au cœur. C'est quand, par exemple, après une séance de permanence connectée, les bénéficiaires ressortent d'ici avec le sourire qu'ils ont réussi à accomplir la problématique avec laquelle ils arrivaient et que juste ils nous regardent et ils nous demandent si la semaine prochaine on est là, si à la prochaine séance de permanence connectée on est là. Ça met un baume au cœur fou et c'est très gratifiant.
Aujourd'hui, on sait que pour toutes les démarches administratives, on passe par l'informatique, on passe par le numérique.
Ouais, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de formats papier. Bon, c'est bien pour l'écologie, etc. Mais pour des personnes qui sont déconnectées du monde numérique, c'est une vraie problématique qu'on essaye de régler ici au quotidien. Et c'est passionnant, quoi, d'essayer de faire en sorte que ces gens acquérissent une autonomie numérique. Donc, il y a beaucoup à faire. Et en même temps, on est là pour ça et on est très content de le faire.
Et ça leur permet aussi d'accéder à leurs droits.
Oui, exactement. Oui. Par exemple, j'ai aidé, dès ma première séance en tant que bénévole ici, j'ai aidé des personnes à faire des démarches administratives pour leur titre de séjour en France, etc. Ben, quand des personnes déjà ont du mal avec l'outil numérique et en plus avec la langue française, ça ressemble à une tâche vraiment impossible. Donc, ça permet à beaucoup de gens aussi de découvrir qu'ils ont droit à beaucoup plus et de s'asseoir, de vraiment bénéficier de tout ce à quoi ils ont droit.
Nous étions à la journée porte ouverte de l'espace solidarité numérique de Emmaüs Connect Roubaix. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Non mais Diméo, qu'est-ce que c'est que cette radio? Eh bien, c'est Radio Campus 106,6 www.campuslille.com.
Je voulais vous dire comme une amoureuse que tous vos sourires me rendaient heureuse. Je voulais vous dire que dedans votre voix on peut se blottir comme dedans vos bras. Je voulais vous dire que sous vos soleils la vie peut mentir, elle restera belle. Je voulais vous dire que dedans vos yeux il y a l'avenir et qu'il semble heureux. Vieux, soyons fous de vivre, soyons amoureux. Je voulais vous dire, aimons sans remords avant de partir vers d'autres décors. Je voulais vous dire que dedans mes poches il y aura vos étoiles et comme des navires vos sourires de gosses parfumés de sable. Vous dire que sur la grande route où il faut aller, c'est à ce sourire que les jours de toute moi je penserai. Se blottir comme dedans vos bras. Je voulais vous dire que sous vos soleils la vie peut mentir et être cruelle. Je voulais vous dire que dedans vos yeux il y a l'amour qui respire et ça rend heureux. Oh, 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 oh.
haven't fallen down in a while. Sitting here walking the line, well that's okay. I ain't no book, 'cause nobody's off the hook. See you looking so sad, trying to live a life in style. Well that's okay, you ain't no crook, 'cause nobody's off the hook.
À l'Institut Cœur Poumon à Lille, c'est une véritable avancée pour le dépistage du cancer du poumon. Un projet transfrontalier avec des partenaires belges, le projet ALCOV. Ici, accompagné par le professeur Sébastien Hulot, chercheur et coordinateur du projet, le professeur Arnaud Cherperel, pneumologue, et le docteur Yanis Psonka, tabacologue, qui vont nous éclairer sur le fonctionnement et l'objectif du projet.
Alors, l'objectif du projet ALCOV, c'est un projet de recherche qui vise à proposer un dispositif non invasif et simple d'utilisation pour améliorer le dépistage du cancer bronchopulmonaire.
Alors justement, ce n'est pas anodin qu'on soit dans les Hauts-de-France, parce que les Hauts-de-France sont particulièrement touchés par le cancer du poumon notamment. Est-ce que vous avez des chiffres ou des diagnostics à nous donner?
Alors particulièrement les régions Hauts-de-France et aussi la partie transfrontalière en miroir au niveau Belgique, hein. Il existe une surmortalité en fait par cancer bronchopulmonaire sur cette région, notamment de par le passé, on va dire, industriel, les habitudes de vie par rapport au tabac et aussi à la pollution atmosphérique, qui font qu'on a une surmortalité de l'ordre de 10 à 15% par rapport au niveau national, et ce qui fait qu'on a un intérêt commun à travailler sur le sujet. De façon plus globale, le cancer bronchopulmonaire est une maladie avec une faible survie à l'heure actuelle. Et pourquoi ? Parce que en fait, très souvent actuellement, notamment dans les deux tiers des cas, les patients sont diagnostiqués à un stade tardif et avec des taux de survie à 5 ans qui sont de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Si maintenant on met en place des programmes de dépistage et qu'on arrive à prendre en charge plus précocement cette maladie, on va pouvoir proposer plus fréquemment une chirurgie thoracique à ces patients et donc améliorer considérablement leur survie à 5 ans pour atteindre des taux de 80 à 90%.
Ce projet, il est porté par 17 partenaires franco-belges, donc il est sur un projet sur 4 ans, donc jusqu'en 2028. Qui sont ces partenaires, avec qui vous travaillez et quel est le budget? Comment vous vous financez?
Alors, le projet Alcove, c'est l'association de différents partenaires. Il y a des partenaires qui sont des partenaires technologiques, il y a des partenaires cliniques. Et les deux vont devoir travailler ensemble, ce qui est quelque chose qui est assez intéressant. C'est surtout une aventure humaine, en fait. Hein, c'est pour pouvoir faire communiquer des équipes avec des compétences très différentes. C'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel et assez intéressant. Différents partenaires sont répartis de façon transfrontalière de part et d'autre de la frontière, avec des partenaires qui sont répartis de façon géographiquement équitable en fait sur le territoire. Et ces différents partenaires vont travailler en concert, notamment les équipes technologiques qui vont d'abord travailler sur l'amélioration de notre dispositif et qui vont devoir le reproduire pour pouvoir le fournir aux équipes cliniques qui vont devoir le valider lors d'une étude clinique dans un second temps.
Ce travail transfrontalier s'effectue à l'aide du projet européen qui leur permet de travailler ensemble.
Le CHU de Lille est le promoteur en fait de cette étude et il coordonne avec notre chef de projet François Cierner le projet qui permet justement de faire collaborer ces différentes équipes qui ne parlent pas toujours le même langage. Par conséquent, ça nécessite d'avoir des fonds et ces fonds, on les a obtenus auprès d'un fonds Interreg européen qui au total aura un financement de 6,6 millions d'euros. Et ce sont des fonds FEDER qui nous sont donnés sur 4 ans. La première phase de miniaturisation et de l'amélioration d'une électronique doit se faire d'ici 2025. Et ensuite, sur les deux années suivantes, nous allons devoir effectuer deux études cliniques les unes après les autres pour pouvoir valider d'un point de vue clinique le dispositif.
Le docteur Psonka est tabacologue et son contact permanent et direct avec les patients va l'aider à sélectionner ceux qui vont pouvoir participer à l'étude clinique et qui permettra par la suite de valider le nez électronique.
Ce seraient des patients fumeurs qui seraient potentiellement symptomatiques ou non d'une maladie respiratoire, d'un cancer potentiellement ou non. On voit assez régulièrement des patients qui sont complètement asymptomatiques, mais qui sont sensibles aux messages de prévention, des risques pour la santé que représente leur tabagisme, et qui vont donc venir pour demander de l'aide pour sevrer leur tabagisme. Et ce sera véritablement à ce moment-là qu'on aura l'occasion, entre guillemets, de leur mettre le grappin dessus pour leur dire « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de programmes de dépistage ?» Et s'ils sont intéressés, on va jamais forcer qui que ce soit à faire le moindre examen, mais s'ils sont intéressés, de participer à ce jour d'examen.
Et en général, pourquoi, selon vous, il y a une réticence à venir justement se faire dépister pour ce cancer ?
La principale crainte des patients, c'est justement de trouver quelque chose. Ils vont nous dire « Non, j'ai pas envie de faire de scanner parce que classiquement, c'est le scanner qui est concerné, parce que ça va me prendre du temps, parce que si on me trouve quelque chose, ça va me mettre en difficulté, parce que j'ai pas le temps. » Je pense que le temps, c'est vraiment le facteur essentiel dans notre pratique, autant de notre côté que de l'autre côté du bureau, du côté des patients. C'est le temps de venir voir le spécialiste, le temps d'attente pour le revoir en consultation. Et donc, c'est la principale crainte. La deuxième crainte étant, comme je l'ai dit, la crainte du résultat.
Pour pouvoir mener à bien ce projet, l'avis d'un pneumologue est aussi essentiel. Le professeur Arnaud Cherperel pointe du doigt les besoins cliniques et l'intérêt d'un outil comme celui développé par Alcov.
Dans la région de France, on est malheureusement une des régions la plus touchée en termes de nombre de cas par rapport à la population totale pour les cancers du poumon, également d'autres cancers, mais notamment les cancers du poumon. Et on est également malheureusement une des régions où la mortalité par ces cancers des poumons, des voies aérodigestives supérieures est la plus forte en France. Donc il y a un double besoin pour la population d'essayer de diagnostiquer ces cancers le plus tôt possible. Donc l'importance du dépistage, mais également de la prévention avec le sevrage tabagique, etc. Et puis également, on a un problème, comme toute région, de déserts médicaux par endroit et d'accès aux soins pour certaines populations qui font que non seulement il faut qu'on améliore le dépistage de ces cancers, mais qu'on améliore également l'accessibilité au dépistage de ces populations, d'où le projet Alcov.
Et alors justement, quel est l'intérêt de ce projet Alcov, si vous pouvez détailler ?
Alors le projet Alcov est basé sur le fait d'avoir un outil simple pour accompagner le dépistage du cancer du poumon qui repose sur le scanner thoracique, ce qu'on appelle faible irradiation, mais qui demande déjà d'aller jusqu'au scanner. Et donc l'outil qu'on veut mettre au point dans Alcov, c'est donc ce qu'on appelle un électronique, qui permettrait de tester les sujets candidats pour ce dépistage, déjà pour les sensibiliser au dépistage, mais également donc pouvoir les pré-tester et augmenter leur motivation pour aller jusqu'au scanner et au dépistage. Ça, c'est le premier usage important, et donc cet outil qui serait simple d'utilisation en ville ou dans les cabinets ou à l'hôpital serait un outil précieux pour sensibiliser et recruter les sujets candidats au dépistage. Et puis la deuxième utilisation de cet outil, c'est également après le scanner, si on dépiste des anomalies sur le scanner, essayer de faciliter le bilan de ces anomalies sans automatiquement aller vers des gestes très invasifs, agressifs, comme des biopsies, etc. Ça pourrait peut-être être un outil décisionnaire pour savoir justement est-ce que ces anomalies sont suspectes ou pas et éviter certains gestes ou bilans complexes.
Le nez électronique a été pensé à partir du nez du chien, capable de détecter certaines formes de cancer. Le professeur Sébastien Hulot nous explique.
Le nez électronique, c'est un système qui permet de recueillir l'air exhalé des patients et cet air exhalé va se déposer sur des capteurs qui vont réagir d'un point de vue électronique à la présence ou non de certains composés organiques volatiles et l'intégration de l'ensemble des réponses de ces capteurs va faire que le nez électronique, selon des algorithmes en fait de décision, va répondre attention, il y a un risque important d'avoir un cancer bronchopulmonaire ou alors il y a le risque est très faible d'avoir un cancer bronchopulmonaire.
L'objectif, c'est de produire plusieurs exemplaires pour une étude clinique menée dans 9 hôpitaux du territoire. Donc, selon vous, d'ici combien de temps on va arriver à ce stade-là et quelles sont vos attentes justement à l'issue de ces essais cliniques ?
Alors, sur le projet Alcov, on s'est donné comme objectif de fournir les 9 centres avec notre dispositif d'ici la fin d'année 2025 afin qu'on puisse initier les études cliniques dans la foulée pour terminer le projet dans les temps puisqu'on a 4 ans. L'objectif de ces études cliniques, ça va être de voir comment les équipes vont s'approprier le dispositif et justement pouvoir avoir des retours avec les études, avec les centres technologiques, les équipes technologiques du projet pour justement améliorer le dispositif et répondre au mieux à la demande des partenaires qui vont utiliser ce dispositif et qui vont participer au dépistage futur du cancer bronchopulmonaire.
L'objectif final est bien d'intégrer ce dispositif au sein d'un futur programme de dépistage.
La première des choses, c'est de valider le dispositif en pratique clinique. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi que les équipes qui vont utiliser ce dispositif s'approprient en fait ce dispositif. Et c'est pour ça qu'on veut justement avoir une communication permanente avec les équipes technologiques du projet pour justement fournir un dispositif qui soit facile d'utilisation avec des interfaces qui guident l'utilisateur lors du recueil de l'air exhalé et qui donne un résultat qui soit facile d'interprétation et qui puisse être utilisé par tous les professionnels de soins, que ce soit en hôpital ou en dehors de l'hôpital, pour justement répondre à la demande dans les populations qui sont les plus vulnérables.
Quelle est la perspective après ces essais cliniques ?
Alors, effectivement, l'étude Alcov va commencer de manière un petit peu simultanée avec une grande étude clinique qui s'appelle Impulsion en France, qui est une étude nationale avec l'Institut National contre le cancer, les ARS et d'autres partenaires comme la Caisse d'assurance maladie. Et l'idée, c'est de justement de développer le dépistage du cancer du poumon. Et donc on va pouvoir tester en parallèle de l'impulsion les nez électroniques, donc dans le cadre du projet Alcove, recruter des sujets. Et la perspective, c'est vraiment, on l'espère, d'avoir un outil utilisable en routine pour tout le monde par la suite après ces études. Il faut valider l'outil, le simplifier, pouvoir voir s'il est bien accepté par la population également et par nos collègues, médecins et autres personnes qui pourraient l'utiliser, les infirmières, etc. Donc c'est ça cet enjeu-là, et si tous les voyants sont verts, on espère un jour l'utiliser en routine.
Bien sûr, ce projet ne verra sa concrétisation que si on arrive à l'intégrer dans les futurs programmes de dépistage organisés. Et par conséquent, il faudra que notre dispositif soit reproduit à grande échelle. Par conséquent, il y aura un transfert industriel qui va devoir s'effectuer en fin de projet. Et on a un partenaire qui s'occupe spécifiquement de ça pour le projet.
Nous étions en compagnie du professeur Sébastien Hulot, du professeur Arnaud Cherperel et du docteur Yannick Sonka, à l'Institut Cœur-Poumon à Lille pour le projet Alcove. Un reportage réalisé par Chloé Lagnès pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
For some, but everyone.
Love, sweet love, it's the just for some, oh, but just for everyone. Allez, viens dans ma cabane, tout là-haut sur la montagne, dans la jolie clairière bien au calme. On ira se promener dans les bois et dans les prés, on ne parlera pas du passé. On vivra de rien du tout, mais quand on s'aime, on s'en fout, être amoureux c'est déjà beaucoup. On fera un petit jardin avec des poules et des lapins, vers la source entre les grands sapins. On aura des provisions, des armes et des munitions, et tout ce qu'il faut pour tenir bon. On vivra de rien du tout, mais quand on s'aime, on s'en fout, être vivant c'est déjà beaucoup. Le monde peut bien s'écrouler, ça ne m'empêchera pas de t'aimer. Oh oui, le monde peut bien s'écrouler, s'écrouler. On ne parlera pas du bon vieux temps, quand il était encore temps d'empêcher le grand effondrement. On criait dans le désert, mais puisqu'on n'a rien pu faire, il ne restera plus qu'à se taire. Il n'y aura plus rien du tout, mais quand on s'aime, on s'en fout. Être vivant, c'est déjà beaucoup. Tu sais, le monde peut bien s'écrouler, ça ne m'empêchera pas de t'aimer. Oh oui, le monde peut bien s'écrouler, s'écrouler. Ça ne m'empêchera pas de t'aimer. Oh oui, le monde peut bien s'écrouler, s'écrouler.
Perchoir, c'est un tiers-lieu inclusif à Arras qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous. On découvre cet espace porté par l'association Down Up, association qui lutte pour l'autonomie de la personne en condition de handicap dans le milieu de vie le plus ordinaire possible. On découvre également les activités de ce tiers-lieu avec Clément, coordinateur et animateur de celui-ci.
Le Perchoir, c'est un tiers-lieu inclusif qui a ouvert maintenant il y a 2 mois sur Arras. Dans l'idée, c'est de proposer un espace de convivialité qui soit ouvert à la fois à notre public de Donup, qui est principalement atteint de trisomie 21, tout en proposant aussi un espace d'accueil pour du public extérieur. L'idée, c'est de vraiment faire de la vraie inclusion et d'avoir un endroit où tous ces différentes personnes avec les différents publics puissent se retrouver pour partager des activités ensemble, donc des ateliers, des concerts, des expositions, voilà. Donc le but, c'est de vraiment créer un espace ouvert à tous, par tous et pour tous. Le projet, il émane de l'association Donup, qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années. Il y avait déjà un espace d'accueil avant ça, qui s'appelait le comptoir 21, mais qui était plutôt réservé aux adhérents de l'association. Depuis 2 ans maintenant, il y a eu une vraie volonté de s'ouvrir sur l'extérieur et de proposer cet espace aussi aux autres personnes du quartier, notamment d'Arras, etc. Donc là maintenant, ça va faire 3 mois que la nouvelle forme est opérationnelle. Et donc voilà, avec pour ambition que à partir de septembre, on soit parti pour de bon et puis qu'on ait trouvé notre fonctionnement, notre gestion, marquer un petit peu notre identité sur le quartier et par la suite un peu plus loin.
Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne concrètement au quotidien, le perchoir ?
Le perchoir, donc on est sur une forme bistrot, en tout cas dans la forme extérieure, parce qu'en fait le format bistrot, c'est quelque chose qui appelle à la convivialité aussi. On a tous eu nos grands-parents qui se retrouvaient sur un bout de comptoir pour échanger des moments de convivialité. Donc on a pris cette forme-là, on a fait le choix de proposer une carte sans alcool, parce qu'on trouvait ça plus en adéquation avec les valeurs qu'on souhaite défendre, montrer aussi qu'on peut s'amuser sans alcool. L'espace d'accueil ressemble vraiment à un bistrot et on propose à peu près les mêmes choses avec toujours cette volonté de mixité des publics. Le perchoir est un projet Donup, donc Donup finance le projet, en tout cas sur la partie loyer, sur la partie salariat, etc. À terme, le but, c'est aussi de pouvoir devenir autonome et de pouvoir proposer une gestion qui soit indépendante financièrement. Mais le projet, pour l'instant, est encore au tout début, donc on a encore très peu de recul, finalement, sur comment ça va se projeter par la suite, en fait.
Et vous êtes combien de bénévoles au perchoir, actuellement ?
Pour l'instant, on a une quinzaine de potentiels bénévoles, sachant que, en raccord avec les valeurs de l'association Donup, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des découvertes professionnelles à nos adhérents, leur apprendre des codes au niveau du travail, au niveau de comment se comporter avec un public en face de soi. La partie bénévolat, notamment avec nos adhérents, est aussi vouée, pour le coup, à pouvoir proposer une ouverture professionnelle par la suite, en fait. Le but de Donup, c'est vraiment, dans ses valeurs, depuis 40 ans, c'était de pouvoir accompagner des personnes porteuses de trisomie 21, à la fois dans des projets personnels, c'est-à-dire obtenir un appartement, vivre en autonomie, quasi-autonomie, de pouvoir avoir une vie en milieu ordinaire classique, et aussi le côté insertion professionnelle, justement, donc c'est-à-dire être en lien avec des entreprises du territoire, de pouvoir leur proposer des stages, des alternances, savoir dans quoi ils veulent aussi s'épanouir. Et donc avec le perchoir, justement, on a cette première approche, en quelque sorte, qui va permettre à ceux qui sont intéressés par de l'accueil public, par la logistique, par de la restauration, de pouvoir découvrir ces mondes-là, et puis que nous, on puisse aussi les accompagner, justement, dans cette découverte, que ça se fasse pas directement dans un milieu ordinaire où, une entreprise doit avant tout faire du chiffre pour payer toutes les charges, les salaires, etc. Donc nous, on est vraiment dans cette approche un peu différente. On a une sorte de tremplin entre leur quotidien et puis un monde professionnel par la suite en entreprise.
Alors toi, du coup, ça fait combien de temps que t'es au perchoir et c'est quoi un peu ton rôle ici ?
Donc moi, ça va faire 2 mois que je suis au perchoir. Je suis arrivé en tant que coordinateur animateur de l'espace parce que c'est quand même une activité à part entière qui prend du temps et de l'énergie. Donc là, étant donné que les autres salariés de l'association étaient déjà bien occupés, ils ont voulu ouvrir ce poste-là. Moi, dans l'idée, c'est de pouvoir à la fois gérer les espaces parce qu'on a un espace accueil, mais on a aussi une partie team building. Donc dans l'idée, c'est de faire de l'accueil d'entreprise pour qu'ils puissent faire des réunions d'équipe en dehors de leur mur à eux, et de pouvoir faire des ateliers autour de l'inclusion. Dans l'idée, c'est aussi de pouvoir gérer les espaces, gérer les activités qu'on va proposer, enfin pouvoir coordonner un petit peu toutes les actions qu'on souhaite mettre en place sur cet endroit.
Niveau inclusion à Arras, on en est où ? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a déjà des choses mises en place?
Alors, il y a déjà des choses mises en place, évidemment. Il y a beaucoup d'associations qui militent pour ça. Comme je disais, Donne-Up, ça fait 40 ans qu'ils militent pour cette vie le plus classique possible pour les adhérents porteurs de trisomie 21. Après, il y a encore, évidemment, comme dans beaucoup d'autres villes, des choses encore à faire. Mais il y a une vraie... En tout cas, il y a une prise de conscience de la part de la commune. Là où on a de la chance, c'est qu'Arras est une ville quand même assez active, surtout sur ces questions d'inclusion, de mobilité, etc. Donc voilà, on est aussi acteur de ce changement et on donne des leviers, notamment à la mairie, à la communauté d'agglomération, à la communauté urbaine, pour que ça aille encore plus vite et apporter notre expertise sur comment les choses doivent se mettre en place pour l'avenir.
Qu'est-ce que, par exemple, il pourrait être fait pour avoir plus d'inclusion ici ?
Le plus important, c'est continuer le travail de médiation auprès des professionnels et des personnes individuelles pour montrer que, en fait, le handicap est loin d'être une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Il y a une personne que je connais qui a embauché très récemment une personne qui est en situation de handicap qui m'a fait remarquer que ça avait été un changement complet dans son entreprise et que ça avait été du positif plus plus. Et en fait, je pense que sur Arras, en tout cas, avec ces problématiques qui lui appartiennent, il faut continuer ce travail de médiation qu'il doit aborder depuis pas mal d'années maintenant. Et bah, en fait, que les entreprises et des bailleurs ou quoi que ce soit n'aient pas peur de se dire en fait, ça va aller.
On est toujours en compagnie de Clément, coordinateur et animateur du tiers-lieu Le Perchoir à Arras. Il nous présente les activités de ce tiers-lieu inclusif qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous.
Actuellement, l'association de Donne-Up, elle compte une quarantaine d'adhérents. Tous ne côtoient pas le perchoir de manière régulière, mais par contre, à terme, c'est aussi les inciter à prendre part à la vie du lieu, que ce soit sur de la programmation, sur du service, sur l'animation, enfin voilà. Pour l'instant, ils commencent tout doucement à s'emparer du projet et le but, c'est qu'en septembre, on ait déjà un petit noyau dur de personnes qui pourront à leur tour aussi former les nouveaux adhérents qui souhaiteraient s'investir dans le projet.
Quelles actions ont été faites depuis le début ?
Alors pour l'instant, voilà, on est encore au balbutiement, donc ça a besoin de prendre. On a eu le temps d'organiser 2-3 grands événements. Océane a organisé notamment les grandes lessives. On a organisé aussi la fête des voisins, avec vraiment à ce moment-là, cette volonté de montrer qu'on était ouvert à tout le monde sur le quartier. Et après, bon, c'est des personnes qui, pour l'instant, passent la tête parce qu'ils se demandent ce qui se passe ici et qu'ils prennent un petit peu la température et qu'ils se posent des questions. On a déjà pas mal de personnes qui ont osé franchir le pas et qui ont envie de devenir bénévoles au perchoir. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et puis, bah voilà, là, encore une fois, dans l'idée, c'est de continuer jusque septembre et qu'à partir de septembre, on ait une programmation qui soit vraiment bien construite et qu'on puisse lâcher les chevaux un bon coup.
Vous avez des projets d'événements pour les prochains mois, à partir de septembre notamment ?
Alors, dans l'idée, c'est de travailler avec des partenaires du territoire. Donc, par exemple, on a des projets d'exposition en partenariat avec l'Œil du Chat qui vont changer tous les mois. On fait la première en juin, là. En fait, on veut s'ancrer sur le territoire. Le but n'est pas d'aller faire le travail de ce qui se fait déjà, mais c'est travailler en partenariat avec ce qui existe déjà, justement, et d'être un support à action, en fait. Donc là, on a, par exemple, des associations de la Rajoie qui vont venir ici proposer des choses, et nous, on va accueillir et puis essayer de co-construire des programmes avec eux, en fait.
J'ai aussi vu que vous aviez un repère café pour réparer les objets. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment ça fonctionne ?
Une personne peut arriver sur place avec un objet électronique ou non qui soit défectueux et de proposer à des personnes qui sont un petit peu bricoleurs, qui ont envie de mettre leurs mains dans les circuits électriques et électroniques, de pouvoir réparer l'objet. En fait, c'est une incitation à la non-surconsommation. Donc là, dans l'idée, c'est vraiment qu'on puisse montrer qu'on n'est pas obligé de jeter un appareil et qu'on peut le réparer. Donc, ça marche avec des bénévoles. Et alors, évidemment, on demande quand même à ce que la personne ait un minimum de bagages techniques pour pouvoir le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on peut réparer un objet plutôt que d'en acheter un nouveau et entraîner à cette surconsommation.
Et aussi, vous avez un objetothèque. C'est quoi le but et comment ça fonctionne ?
L'objetothèque a été créé en lien avec Tipeee, qui est un tiers-lieu qui est sur l'île. Et donc, dans l'idée, c'est de pouvoir proposer un inventaire d'objets qu'on mettra à disposition contre une adhésion à l'association. D'objets qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Par exemple, je sais pas, une tondeuse, c'est quelque chose qu'on utilise une fois de temps en temps, et plutôt que l'objet soit stocké et ne serve pas, qu'elle puisse servir à une personne qui en aurait besoin au moment T. Donc encore une fois, c'est une incitation à re-réfléchir à nos modes de consommation et de pouvoir montrer que une mise en commun, elle est possible, et de ce fait, se partager des objets, se partager des savoirs avec le Repair Café, par exemple, hein, c'est aussi ça, hein, c'est montrer comment on peut réparer un objet. Donc l'objet Totex, c'est vraiment ça, c'est de la mutualisation pour des objets qui ne servent pas au quotidien.
Pour l'instant, globalement, au Perchoir, vous êtes content de comment ça se passe ?
On sent un vrai intérêt de la part des personnes qui passent devant, avec tout cet effet de curiosité, évidemment, mais les personnes qui ont poussé la porte sont tous convaincus de ce qu'on souhaite porter comme valeur. Comme je le disais, on est encore au balbutiement, donc il y a encore beaucoup de choses à écrire. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les feux sont verts des retours qu'on en a. Il y a plus qu'à convaincre les gens de l'extérieur de oser pousser la porte et puis venir partager des moments de joie avec nous.
Vous avez encore principalement des gens atteints de trisomie 21 qui viennent, et pas trop des gens de l'extérieur encore ?
Nos adhérents commencent vraiment à prendre possession de l'endroit. Les gens de l'extérieur, on va dire qu'il y a encore cette curiosité qui n'est pas encore franchie totalement. La plupart des gens qui habitent dans le quartier ont vu qu'il se passait quelque chose, mais il y a encore ce dernier pas à faire pour qu'ils puissent franchir les portes et puis venir partager un café avec nous.
C'était un entretien avec Clément, coordinateur et animateur du tiers-lieu Le Perchoir à Arras. Il nous présentait les activités de ce tiers-lieu inclusif qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous. Vous pouvez retrouver toutes les informations du Perchoir sur leur page Facebook et aller découvrir ce lieu au 21 rue Paul-Adam à Arras. Un reportage réalisé par Léo Lagnier, montage Laura Becker pour Radio PFM.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Campus, une radio libre associative, non commerciale et sans publicité, que vous écoutez sur 106,6 ou le www.campuslille.com.
dimanche, t'as été des chiens. Aujourd'hui c'est dimanche, tu es bien trop loin. Mais ça y est, j'ai le matin. La lune t'est fatiguée de m'entendre hurler sur mon toit sinistré, et les ministres me filent la légion d'honneur de la plus grande.